C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Le 8 novembre 1975, le Miamigo, qui héberge les deux seules radios offshore encore en activité en Europe, dérive et s'échoue dans les eaux territoriales britanniques. Certains médias d'information couvrent largement l'avarie, offrant du même coup une belle publicité aux deux radios. Quelques jours plus tard, le bateau est abordé par la police et des fonctionnaires montent à bord, neutralisent les DJ, procèdent à une saisie de matériel et à des interpellations. 4 DJ seront condamnés pour infraction à la loi anti-radio offshore. Cela fait suite à l'établissement d'un piège destiné à prouver, photo à l'appui, que des citoyens britanniques collaborent toujours avec le navire radio. On a l'impression que la lutte engagée par le gouvernement anglais s'intensifie. Mais les programmes de Caroline et Radio Miamigo sont écoutés par un public qui s'identifie bien au combat de Ronan O'Reilly. Même si la plupart des auditeurs ne perçoivent pas forcément l'aspect juridique de la lutte engagée entre le Miamigo et les gouvernements européens, tous voient dans les deux stations de radio un symbole de liberté. Et même si les programmes ne sont pas toujours faciles à capter, on sent bien qu'ils ne sont pas fabriqués dans un studio de radio traditionnel. Et ça aussi, ça séduit.
Well, thank you, Jeff, for the very nice program. My name is Samantha, and you're listening to Radio Caroline on 259 meters. I'm very pleased to be back again, and I hope that I'll bring you a pleasurable 2 hours. I'm going to start off with Pink Floyd from the album Atom Heart Mother, and the track is called If.
Pour la première fois dans cette série, on peut entendre une voix féminine sur les ondes d'une radio offshore. Durant les premières années du phénomène, les femmes ont été totalement absentes des micros. Il faut dire qu'à la fois le milieu très masculin des navires et les conditions de vie à bord n'étaient pas très attirantes pour une femme. Toutefois, elles vont peu à peu faire leur arrivée. Samantha Dubois, dont on vient d'entendre la voix, arriva sur le Miamigo en 1973. Elle était la petite amie de Peter Chicago, l'ingénieur du son. Elle vint d'abord aider à la cuisine, mais peu à peu, elle prit l'antenne. Tout d'abord en utilisant son vrai prénom, Ellen, puis un premier pseudo, Samantha the Cook. D'origine hollandaise, Samantha a vécu en Nouvelle-Zélande et parlait l'anglais avec un accent reconnaissable. Il y a assez peu d'enregistrements de ses émissions, car elle animait surtout la nuit. Elle fit ses débuts en février 1973 et quittera le Miamigo en 1976. Elle sera condamnée par la justice hollandaise, mais reviendra à plusieurs reprises sur le bateau et ouvrira la voie à quelques autres femmes.
Jimi Hendrix, a track called My Friend. I'm sorry if my voice sounds a bit hoarse tonight, but I just have to get used to doing radio broadcasting. I've been away for about 1.5 years. My name is Samantha, and I'll be taking you through until 2 o'clock. I'm going to play a track for you now by Led Zeppelin. Sorry about that. And it's called Stairway to Heaven.
Au printemps 1976, Radio Caroline émet sur 2 fréquences. L'une qu'elle utilise seule 24 heures sur 24 et une seconde qu'elle partage avec Radio Miamigo, qui émet de 6h à 19h. La météo va à nouveau perturber la vie du navire radio. Le 10 septembre, dans la journée, un message codé à destination de la direction rapporte que le Miamigo a été très secoué et qu'une vague a brisé le hublot du studio utilisé par Radio Miamigo. C'est un peu plus tard que le DJ Ed Forster informe ouvertement de la réelle situation du navire.
We are on a sandbank and
Le bateau avait à nouveau rompu son ancre. Pour éviter de nouveaux ennuis avec les autorités britanniques, les programmes cessèrent le soir même. Le lendemain matin, un bateau d'assistance amena une nouvelle ancre et un nouveau câble. Mais le Miamigo resta enlisé dans le sable. Il fallut l'intervention d'un second navire le 16 septembre pour le dégager et le ramener en haute mer. Les programmes reprirent le jour même.
Lizzie from the album Jailbreak, and the boys are back in town. Yes, indeed, we're back in town. Radio Caroline back on 259 metres in the medium wave band. Must apologise for the last three or four days, or is it 5 days, without transmissions, but we have had some difficulties out here. The weather was rather rough a couple of days ago, and... Oh, I see. Yes, you can probably hear the work still going on, actually. They're welding something. Don't quite know what it is. I'll let you know exactly what's going on. My name's Ed Foster. I'm here until 10 o'clock this evening. And then from 10 till 1 is Mark Lawrence. From 1 till 4 is Tom Anderson. And from 4 till 6 in the morning, until Mi Amigo starts up again, it's yours truly, Ed Foster. It's 7 minutes past the hour of 7 o'clock on Radio Caroline.
Radio Caroline. Au Moyen-Orient, à partir de la fin du mois d'octobre, le volume des spots publicitaires diffusés par la Voix de la Paix diminua de façon très significative. Et cela toucha surtout les annonceurs israéliens. On ne comprit pas immédiatement pourquoi, car depuis que la radio avait adopté une programmation musicale plus accessible, elle séduisait des milliers d'auditeurs en Israël et dans la région. L'explication de ce brusque changement vint lorsque le 5 décembre, le MV Peace fit son entrée dans le port d'Haïfa pour y être ravitaillé en vivres et carburant. Puis le quitta 15 jours plus tard pour faire route vers le sud, vers l'Égypte. Abinathan n'avait pas abandonné son rêve de faire naviguer le MV Peace dans le canal de Suez. En négociation avec les autorités égyptiennes, Nathan dut satisfaire deux conditions pour pouvoir réaliser ce souhait. Le gouvernement égyptien exigea que la station cesse de diffuser un nombre aussi important de publicités émanant d'annonceurs israéliens pour prouver son indépendance. La seconde condition était que les émissions devaient cesser durant la traversée. Le 31 décembre 1976, le navire arriva en vue de Port Saïd et fut immédiatement escorté par des bateaux de la marine égyptienne. Le lendemain, il fit partie d'un convoi qui effectua la traversée. Le navire radio, alors silencieux, navigua jusqu'à Eilat où il arriva le 4 janvier. L'accueil fut très chaleureux et le maire d'Eilat chargea Abinathan de remettre de sa part un cadeau au maire d'Aqaba en Jordanie où le MV Peace devait se rendre. Mais les autorités jordaniennes refusèrent que le navire aborde Aqaba. Les Égyptiens avaient eux-mêmes refusé que des jouets soient remis aux enfants de la part de la Fondation pour la Paix. Le voyage du MV Peace fut largement ignoré dans les médias régionaux en général et égyptiens en particulier. Le 10 janvier, le bateau radio était de retour à la limite des eaux territoriales israéliennes et les émissions reprirent. Le 22 janvier 1977, Radio Miamigo lança une émission en français le samedi matin entre 8h et 12h. La programmation mettait l'accent sur des artistes francophones. L'idée était de faire de cette émission un test pour une ouverture plus large vers les Belges francophones et les auditeurs du nord de la France. Hélas, la station reçut surtout des lettres de protestation des auditeurs néerlandophones. Même sur les ondes, les deux communautés s'affrontent. Et comme par ailleurs, le signal de réception n'était pas bon en France, cela rendait peu vraisemblable que des annonceurs français soient intéressés pour acheter du temps d'antenne. Ainsi, cette émission ne connut que deux numéros. En ce début d'année 1977, on reparle des deux navires de la société Mebo Limited et en particulier du Mebo 2 d'où partaient les émissions de Radio North Sea International. Après de nombreuses péripéties juridiques, les navires furent restitués à la société Mebo. Après paiement d'une amende pour avoir maintenu les équipements radio après l'entrée en vigueur de la loi anti-radio offshore. Les propriétaires durent aussi s'acquitter d'une caution pour garantir que le Mebo 2 ne sera pas réutilisé pour diffuser des programmes radio. On aborde ici une page peu glorieuse de l'histoire de ce navire et de ses propriétaires, puisque le Mebo 2 et son ravitailleur vont être cédés au dictateur libyen Muammar Kadhafi dans le cadre d'une collaboration plus large entre la société suisse et le dictateur. Les deux bateaux arrivent en Libye le 9 février 1977 et le Mebo 2 va diffuser les programmes de la Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation, la radio du gouvernement. Cet essai de transmission datant du mois de mars 1977 ne laisse pas de doute sur le fait que la société suisse collabore pleinement à l'entreprise, puisque l'on reconnaît l'indicatif de Radio North Sea International.
For a transmitter test program in the medium wave band at 773 kHz, 388.1 meters, and the 49 meter shortwave band at 6210 kHz, and the 31 meter shortwave band at 9810 kHz. Alan VHF FM hit 90 MHz. This broadcast concludes at 1 a.m. That's 2300 hours GMT.
Plus tard, les deux bateaux seront reconvertis en cibles d'entraînement pour la marine libyenne et seront coulés en 1984 dans le golfe de Sirte. Mais la société d'Erwin Meister et Edwin Bollier sera inquiétée par la justice pour sa collaboration plus large avec le dictateur libyen, et notamment pour avoir probablement fourni des composants électroniques ayant servi à la minuterie qui déclencha la bombe placée à l'intérieur du Boeing 747 de la Paname qui explosa au-dessus du village écossais de Lockerbie le 21 décembre 1988 et qui fit 270 victimes.
To close down at 11 o'clock, and as this is our final transmission in this area, everyone at this station would like to extend their good wishes and thanks to the people of Benghazi for their kindness over the past few months. We hope that you've enjoyed the music, and we look forward to your company again soon. So from us, it's goodbye, salam, and good night.
Fin février 1977, un tribunal de Boulogne-sur-Mer condamna 5 commerçants et intermédiaires pour avoir fourni divers biens au Miami Go. En mars, Radio Caroline changea de fréquence d'émission pour migrer sur 319 mètres afin de remédier à la médiocre qualité de réception due à un émetteur très peu puissant. En juin, pour la première fois de son histoire, la station sollicita la générosité de ses auditeurs en lançant un appel aux dons. La radio manquait cruellement d'argent malgré la location partielle du Miami Go. Elle avait surtout besoin d'un nouvel émetteur bien plus puissant. Mais les appels aux dons ne permirent de récolter que quelques centaines de livres. The Daily Mail, lundi 25 juillet 1977. Le prix à payer pour maintenir à flot les pirates de la radio. Radio Caroline, devenue la première station pirate britannique le dimanche de Pâques 1964, continue d'émettre quotidiennement à 29 km des côtes de l'Essex. La survie de ces pirates radio sur le Miami Go, un navire studio de 42 mètres de long et soumis à un blocus international depuis 3 ans, est un exploit extraordinaire. 600 livres pour un aller-retour de 193 km. C'est le salaire moyen des pêcheurs prêts à risquer leur vie en emmenant personnel et ravitaillement à bord du Miami Go. Les disques jockeys sont payés en moyenne 25 livres par semaine. Ils sont toujours 4 à bord pour des périodes de service d'environ 6 semaines. En plus des 6 membres d'équipage. Un système de fausse publicité a été mis en place pour protéger les organisations qui paient du temps d'antenne. De nombreux spots publicitaires de Caroline sont diffusés sans l'autorisation des entreprises concernées. Il est donc pratiquement impossible pour les autorités de savoir qui fait réellement affaire avec la station. Certains signes montrent cependant que les finances se font plus rares. 14 condamnations pour Caroline ont été prononcées en Grande-Bretagne depuis 1974, dont celle à Southend d'un homme de 28 ans, accusé notamment d'avoir vendu des badges Caroline à 15 cents l'unité. D'autres poursuites ont eu lieu sur le continent. Mais selon Honag Urquhart, 39 ans, qui vit dans le nord de Londres, de nombreux pêcheurs sont toujours prêts à approvisionner le Miami Go. Madame Huggard a été condamnée à une amende de 500 livres en France pour avoir affrété un bateau afin d'approvisionner le Miami Go. J'étais chez moi à Londres lorsque j'ai commencé à recevoir une série d'appels paniqués, me demandant si je pouvais dépanner un terrible désordre. Les gens payés pour réparer un bateau de secours avaient échoué, et les gars du Miami Go commençaient à manquer de nourriture et d'eau. Les gars du navire étaient mes amis. Alors que pouvais-je faire? Rester à la maison et les laisser mourir de faim? Je me suis fait prendre parce que j'avais utilisé un homme non seulement cupide, mais devenu trop paresseux pour se permettre la mascarade de faire semblant de pêcher. Personne ne peut prédire combien de temps encore Caroline survivra. Les pressions internationales, destinées à la couler complètement, se font de plus en plus fortes. Dette. Mais Caroline a fait plus que simplement gagner une place durable dans l'histoire de la radiodiffusion. Elle a contribué à révolutionner la radio en Grande-Bretagne. La radiodiffusion marchait dans une ornière complaisante, jusqu'à ce que Caroline et les autres pirates de la première heure arrivent à l'antenne avec entrain. La BBC a soudain pris conscience qu'un jeune public réclamait quelque chose de nouveau. Évidemment, des restrictions s'imposent. Ce serait le chaos si quiconque était autorisé à s'approprier une longueur d'onde. Mais en même temps, n'oublions pas que nous avons une dette envers ces pirates de haute mer. Leslie Watkins. Cet article suscitera de nombreuses lettres de lecteurs, témoignant de leur attachement à la station historique et mettant aussi en valeur leur insatisfaction à l'écoute des programmes de la BBC, y compris pour certains de Radio One.
Today is Georgie Fame's birthday, and we've been searching in the library. We cannot find one Georgie Fame record anywhere, which must be quite ridiculous. So I suppose I'd better sing either Sitting in the Park or Get Away. Ready? Gotta go, gotta find the city folks, gotta get away, get away. Right, that's my lot. I can't do any more than that. It's just that Georgie is a very special person, because without Georgie Fame, Radio Caroline would not be here, because it was due to the fact that we couldn't get the Georgie Fame album, record rather, released, right? We went to Pye and went to all the major companies, and they said, no way, son, too early for black singers, they said. And so we took it to Radio Luxembourg, and they said, well, as you see, it's EMI show, Decca show, EMI show, Decca show, and a bit of Philips down the bottom, right? So we thought, well, the only way we can go on from there is start the own radio station, so that's why we're here. Georgie, if you're listening down in Cornwall on the farm, sorry about that, we don't have any records of you on board. That's ridiculous, quite ridiculous. Still, never mind. We're with you in thought. Happy birthday, my darling boy, and we'll play this one for you. This is Jimmy Taylor.
How sweet it is to be loved by you.
En août 1977, une enquête parue dans le magazine anglais Broadcast annonça que la voix de la paix était régulièrement écoutée par plus de 23 millions d'auditeurs au Moyen-Orient, dont près de 11 millions en Égypte. Mais une autre enquête ciblée sur la seule population israélienne affirma que The Voice of Peace n'était que la troisième radio, derrière le programme musical public et la radio militaire. Le 4 août 1977, à 9h30, les programmes de Caroline en direct cessent, remplacés par de la musique non-stop, et à 15h50, les émetteurs des deux stations se turent et ne reprirent que dans la soirée. La cause de cet arrêt était une importante fuite d'eau sur le Miamigo qui avait inondé la salle des machines, certaines cabines et la discothèque. Comme le bateau se mit à pencher à tribord, on crut qu'il y avait une voie d'eau. Mais après maintes recherches, l'équipage découvrit que la fuite venait d'un des tuyaux de refroidissement des moteurs. Le Miamigo ne risquait donc pas de couler, comme ses occupants le craignirent toute la journée. Néanmoins, ce fait illustrait la grande précarité des deux radios. Le Miamigo était vraiment vieillissant. À cette époque, les DJ anglais ne sont plus que deux pour maintenir l'antenne en continu 24 heures sur 24. Ils commencèrent par animer en alternance des tranches de 2 heures, mais bientôt ils eurent recours à la rediffusion d'anciens programmes. Deux DJ néerlandais de Radio Miamigo vinrent à la rescousse en présentant des émissions dans les deux langues pour qu'elles soient diffusées simultanément sur les deux programmes. Des plages de musique non-stop firent aussi leur apparition, d'abord la nuit, puis aussi parfois en journée.
Radio Miamigo betekent iedere dag 15 uur luisterplezier. Van 's morgens 6 tot 's avonds 9 zetten Stan Haag, Michelle, Heike de Bois, Herman de Graaf, Mark Jacobs, Bokkerbroek, Hugo Meurdenhof, Otto en Frank van der Mast hun beste beentje voor om u te amuseren. Radio Miamigo, iedere dag 15 uur lang, het beluisteren meer dan waard.
Dit is Hugo Meurdenhof op Miamigo Internationaal.
The final track.
Well, you say you got the blues.
Le 17 septembre, 5 nouveaux DJ anglais arrivèrent sur le Miamigo, permettant la reprise des programmes de Caroline 24 heures sur 24. Les problèmes de générateurs devinrent récurrents durant l'automne et entraînèrent de fréquentes interruptions des deux radios. À partir du 10 novembre, les deux programmes resteront muets pendant 10 jours. À la même époque, Radio Miamigo connaît de sérieux problèmes de ravitaillement. Deux navires de liaison furent interceptés par les autorités belges et néerlandaises. L'un des deux fut bloqué dans le port de Zeebruges, puis transféré à Bruges, où il fut immobilisé. les autorités belges considérant que ses papiers d'immatriculation n'étaient pas en règle. Le 1er décembre, les deux radios échangèrent leurs fréquences et leurs émetteurs. La réception de Radio Miamigo sur 212 mètres en Belgique et en Hollande était très moyenne, alors qu'elle disposait d'un émetteur de 50 kW. A l'inverse, avec un émetteur de seulement 10 kW, la réception de Caroline sur 319 mètres était plutôt bonne. On inversa donc les choses, preuve que Caroline dépendait totalement de Radio Miamigo pour pouvoir continuer à survivre. Des articles dans la presse néerlandaise et belge firent état du départ de 4 DJ de Radio Miamigo. La surveillance accrue des côtes européennes et des condamnations prononcées contre certaines personnes commençaient à décourager.
De juiste Edox-tijd op Radio Miamigo is nu precies 9 uur. Edox, de juiste tijd, altijd. Miamigo, Miamigo. Luisteraars, goedemorgen. Het is 30 seconden over 9 en u bent afgestemd op Radio Miamigo van 212 meter middengolf. Hugo, kan jij even doen wat we afgesproken hadden? Oh.
Au Proche-Orient, The Voice of Peace va aussi entrer dans une période d'instabilité. C'est d'abord la société Broadcast Placement Service, basée à Londres, qui cessa ses activités. Cette société avait non seulement permis le recrutement d'animateurs anglophones, mais servait aussi d'agence de publicité permettant à la station de décrocher des contrats avec des multinationales. Puis Abinathan décida de cesser de traiter avec une agence israélienne pour prendre en charge lui-même la recherche de contrats publicitaires. Le choix ne fut pas judicieux et la station vit ses finances se réduire considérablement. Cela se répercuta sur l'entretien du matériel de diffusion et affecta la qualité des émissions et leur continuité. Le 17 février 1978, le Jerusalem Post annonça que la Voix de la Paix cesserait probablement ses émissions dans très peu de temps. Abinathan expliqua que plusieurs facteurs avaient contribué à évincer sa station du marché publicitaire, et notamment le fait que la radio publique israélienne offrait des rabais aux annonceurs qui s'engageaient à ne pas acheter de l'espace sur The Voice of Peace. Nathan affirma que malgré l'enquête de l'été 1977, qui attribuait près de 23 millions d'auditeurs à la Voix de la Paix, certaines agences de publicité avaient fait courir le bruit selon lequel The Voice of Peace n'avait que très peu d'auditeurs. Une tempête avait aussi causé de gros dégâts aux MV Peace qui coûtèrent très cher. Abinathan conclut que la station avait encore les moyens de tenir une dizaine de jours, pas davantage. Mais décidément, l'histoire de cette radio tient vraiment du romanesque. Nathan annonça sa fermeture pour le 28 février 1978 et convia les auditeurs à un rassemblement d'adieu à Tel Aviv 3 jours plus tôt. Plus de 60 000 personnes s'y rendirent, prouvant que The Voice of Peace avait bel et bien un public. En voulant célébrer sa fin, la station avait fait l'incontestable démonstration de sa popularité et les annonceurs ne purent le nier. À la veille de la fermeture prévue, les demandes d'informations sur les tarifs publicitaires affluaient. La Voix de la Paix ne ferma donc pas et les annonceurs revinrent en masse, y compris certains qui n'avaient jamais acheté du temps d'antenne. Pour couronner le tout, une grève de 12 jours réduisit au silence Kol Israël. Pendant cette période, seul Galé Tzahal, la radio militaire, et The Voice of Peace émettaient, ce qui permit à la radio flottante de toucher encore plus d'auditeurs. Début mai, un sondage révéla que 24% des 18-24 ans en Israël écoutaient quotidiennement la Voix de la Paix.
אני רק זוכר שלפני המשחק קניתי 2 קילו גרעינים שחורים מלוכים וארגז קין לי לימון בשביל החבר'ה אני איש הגיוני, הנה יש משחק, יש מתח יש מתח, מבטחים גרעינים מבטחים גרעינים, נהיים צמאים ולהיות צמא זה הכי כיף עם קין לי לימון אז מה חשובה הניידת?
כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 קילוהרץ.
Le 26 mars 1978, Radio Caroline fête à son 14e anniversaire. Radio Miamigo s'associe à cette célébration avec dès 19h une émission de Herman de Graaf consacrée à la plus ancienne radio offshore encore en activité. Just me and
over onze oudere zuster, onze 14-jarige zuster Radio Caroline, terwijl Radio Miami pas aan haar vierde jaargang bezig is. Radio Caroline, congratulations and that kind of things. En Roelam, we zitten nog steeds op Miami Go, luisteraars. Ja, we zitten wel op Miami Go, maar we hebben het wel over Caroline vanavond, luisteraars. We wilden u graag laten horen de allereerste opening van Radio Caroline.
Même si l'existence de Caroline dépend largement de la présence de Radio Miamigo sur le navire, la radio des années pop britannique est devenue une légende. Malgré les problèmes financiers, les aléas de la nature, les conditions de vie sur le bateau et surtout la lutte menée par les autorités britanniques, mais aussi hollandaises, belges et françaises, la radio tient toujours. À partir de 19h30, les DJ Mark Lawrence et Mike Stevens animent une émission spéciale consacrée aux 50 titres préférés des auditeurs. Ces deux animateurs n'ont pas connu la première époque de Caroline, mais leur présence témoigne qu'il y a toujours de l'enthousiasme pour se lancer dans cette aventure unique. L'évolution des programmes des radios officielles publiques ou privées n'a pas masqué le phénomène des radios offshore. Qu'est-ce qui motive un auditeur à choisir d'écouter Radio Miamigo ou Caroline, malgré les conditions de réception qui ne sont pas toujours très bonnes? Si ces radios sont hors des lois, cela se ressent-il à l'antenne avec un ton hors la loi? Les DJ n'évoquent jamais le statut juridique de leur radio, mais mentionnent souvent qu'ils émettent depuis un bateau en mer du Nord. Cela suffit sans doute à faire naître un imaginaire qui fait sens pour le public. Si l'on ajoute à cela des conditions de réception parfois très médiocres qui mettent en valeur la fragilité du lien entre ces deux radios et leurs auditeurs, on comprend que se brancher sur Caroline ou Miamigo est une expérience d'écoute singulière qu'aucune radio officielle ne peut procurer.
We are near the end of our story. London skyline has a new landmark pointed toward the heavens. Caroline's aerial. At last beaming out its love and music to a free and peaceful nation. We have overcome. The battle is over. Free radio becomes a way of life, but never taken for granted. For no man will ever forget Monday, August the 14th, 1967.
Welcome back, my friends, to the show that never ends, never ends.
Le 16 mai 1978, l'emblématique fondateur de The Voice of Peace annonce qu'il débute un jeûne pour exiger des autorités israéliennes et en particulier du premier ministre de l'époque Menachem Begin des actes pour ramener la paix dans la région. Nathan annonce aussi que si le gouvernement israélien ne change pas d'attitude, la voie de la paix cessera d'émettre le 24 juin et qu'à titre personnel, il est prêt à jeûner jusqu'à la mort. Le gouvernement israélien restant inflexible, la radio cesse effectivement ses émissions le 24 juin à 18h. Le 28 juin, Abi Nathan est reçu à la Knesset, le parlement israélien. Maigre, très affaibli, il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Plusieurs ministres et députés s'entretiennent avec lui et le supplient d'arrêter son jeûne. Il consent et la voix de la paix reprend ses émissions le 30 juin. Abi Nathan a fait le constat que la perspective de sa mort et la disparition de la voie de la paix ne feraient pas fléchir le gouvernement israélien. C'était les DJ de la haute mer, 29e épisode.